Vous écoutez On lit pour vous.
Un programme durable pour les productrices noires du cinéma et des médias en Colombie-Britannique. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 19 mars 2025 dans La Source. L'organisme Black Women Film Canada, BWF Canada, recrute des productrices noires expérimentées de la Colombie-Britannique et des environs, ayant des projets en développement, afin de les soutenir et de favoriser l'inclusion dans l'industrie du cinéma et des médias. Pour marquer son 10e anniversaire, BWF Canada a lancé en janvier dernier un programme révolutionnaire, Real Change for Black Women in Film and Media. Cette initiative nationale bilingue, financée par l'ancien ministère fédéral des femmes et de l'égalité des genres du Canada, a fait escale à Vancouver début mars, après des arrêts à Halifax, Montréal et Winnipeg. Approche holistique pour un changement systémique. Depuis sa fondation en 2015, BWF Canada s'est donné pour mission de soutenir les femmes noires dans le domaine créatif en mettant l'accent sur les productrices, réalisatrices, scénaristes et créatrices de contenu afin qu'elles accèdent à des postes décisionnels. Les femmes noires non-binaires et trans sont souvent laissées à elles-mêmes dans l'industrie du cinéma, de la télévision et du web, explique Sabine Daniel, nouvelle directrice nationale du programme Real Change chez BWF Canada et productrice de cinéma et télévision. La franco-ontarienne d'origine haïtienne et dominicaine, Real Change adopte une approche holistique tenant compte de l'intersectionnalité et des discriminations subies par les créatrices noires. Ce programme vise à briser l'isolement des productrices en proposant des espaces de soutien, un mentorat personnalisé et des formations adaptées, ainsi qu'un soutien financier aux créatrices et à l'industrie qui les accompagne. Sabine Daniel souligne que le mentorat personnalisé est central, visant à former les mentors locaux et alliés à la réalité des personnes issues de cette diversité et intersectionnalité, grâce à des classes de maîtres sur l'équité et l'inclusion. Ce programme, qui s'articule en trois étapes, inclut une consultation régionale sur invitation, une résidence locale de 2 mois avec des ateliers, du mentorat et des stages, puis une rencontre finale commune en juin 2026 pour présenter les projets à des diffuseurs et partenaires nationaux. Diversité linguistique et régionale. L'une des caractéristiques du programme réside dans son caractère bilingue et son souci de représenter les réalités régionales. Être francophone hors Québec dans une industrie majoritairement anglophone est un défi supplémentaire, souligne Sabine Daniel. Nous souhaitons reconnaître cette intersectionnalité et offrir aux productrices noires francophones la même chance de mener à bien leurs projets en développement jusqu'au grand écran. Le programme offre un soutien financier pour les frais de déplacement, de garde et d'hébergement, levant ainsi les barrières logistiques. Il est essentiel que les femmes, peu importe où elles vivent, puissent avoir accès à ces ouvertures, ajoute Sabine Daniel. Tatiana Gallo. C'est par les réseaux sociaux que la participante et productrice vancouveroise, Tatiana Gallo, une Canadienne aux origines françaises et malgaches, a découvert BWF Canada en 2024. Originaire du Québec et ayant vécu en Alberta, Tatiana s'est installée à Vancouver il y a 6 ans. Elle travaille aujourd'hui dans la production, la stratégie marketing et la création de contenu. La jeune productrice a pris part à la consultation régionale tenue le 7 mars dernier. Cette journée, à la fois touchante et bien ciblée, nous a permis de partager nos aspirations en tant que communauté. J'ai rencontré un groupe de gens inspirants et j'ai hâte de voir comment ces contacts feront évoluer le programme en Colombie-Britannique, indique celle qui ne connaissait que la photographe. Animée par une passion pour le récit et le partage d'histoires authentiques. La participante voit Real Change comme une plateforme qui lui permettra non seulement de développer sa carrière, mais aussi de contribuer activement à l'industrie cinématographique canadienne. Mon objectif est de soumettre un projet authentique et diversifié, tout en bénéficiant du soutien d'une communauté engagée. C'est une véritable occasion pour évoluer dans l'industrie en racontant mes histoires, explique Tatiana Gallo, décidée à soumettre sa candidature au programme de résidence de 2 mois. Pour Sabine Daniel, Real Change est l'occasion de réécrire la place des productrices noires dans le paysage culturel canadien en leur offrant une plateforme pour partager leurs histoires dans leur langue, à leur manière. C'était un programme durable pour les productrices noires du cinéma et des médias en Colombie-Britannique, un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 19 mars 2025 dans La Source.
Jaco, le phénomène québécois à la conquête de la France. Une entrevue réalisée par Samuel La Rochelle, parue le 26 mars 2025 dans le magazine Fugue. En 2015, Jacques Rousseau est apparu dans le paysage culturel québécois en participant à La Voix. 10 ans plus tard, celui qu'on appelle désormais Jaco lance Plan F, un premier album d'électropop absolument brillant. Le Québécois vient également de signer un contrat avec Thierry Suc, le manager de Mylène Farmer et le producteur de la plus récente mouture de Starmania. Fugue s'est entretenu avec le créateur des chansons Come to Daddy, Low Bat et Pain au chocolat. Que s'est-il passé depuis 2015? Ma participation à La Voix a concordé avec des événements plus sombres. Au lendemain de mon audition à l'aveugle, mon père a été retrouvé mort. Le drame familial et le stress de La Voix ont généré chez moi de grands problèmes physiques. J'ai passé environ 3 ans avec une énergie limitée. En 2014, j'avais lancé un EP sous mon vrai nom, Jacques Rousseau. Un producteur très connu en France avait flashé sur ma musique. Je me sentais sur un élan qui allait m'aider à percer, mais ça ne s'est pas produit avec le drame. J'ai été plongé dans une forme de néant. Comment as-tu réagi? Pour la première fois, j'ai pensé à un plan B, alors que ça avait toujours été clair que ma place était sur scène. Puisque j'ai toujours eu un intérêt pour le développement personnel et la spiritualité, je suis devenu enseignant de méditation pendant 4 ans. C'était hyper nourrissant, mais je ne pouvais pas laisser mon rêve musical de côté. L'appel intérieur était trop fort. Je me suis donc retroussé les manches. Rendu là, j'avais de la difficulté à chanter. Quand ma santé s'est rétablie, je suis retourné suivre des cours de chant et je me suis inscrit à l'École nationale de la chanson de Granby. En quoi ce retour à l'école a-t-il influencé ton développement? Ça m'a fait sortir de mon salon, après des années un peu isolantes. J'ai partagé mon amour musical avec une cohorte de passionnés. C'était la première fois que je suivais des cours de théorie musicale et que je me commettais sur une base aussi régulière à faire de la création. Ça m'a donné un élan, ça m'a aidé à comprendre mes élans créatifs et à développer mon vocabulaire. Je ne partais pas de zéro, mais j'ai consolidé ce qui me fait triper et je me suis aligné. À travers l'électropop, ton album a aussi des sonorités de chansons françaises et des rythmes hip-hop à la Eddie de Préto. Était-ce ardu de trouver cette signature musicale? Ça prend du temps pour comprendre sa recette personnelle. Je veux faire une pop accrocheuse. C'est un véhicule formidable pour parler à des foules et passer des messages. J'aime la pop accessible, avec de la personnalité et une signature. J'ai dû faire un voyage intérieur pour trouver ce qu'il y avait d'unique chez moi et quels éléments rassembler pour que ça fonctionne. Il y avait tellement de musiques différentes chez nous et j'ai fait un grand parcours d'exploration musicale. Classique, chansons françaises, chants monastiques, religieux, hip-hop, musique de films et de jeux vidéo. Tout ça, ça se retrouve un peu dans mon album. Ça fait quelque chose de ludique. Je m'amuse à me faire plaisir, tout en offrant quelque chose de très intime. Plusieurs artistes écrivent de la pop dansante francophone très mauvaise. D'autres, comme toi, font des merveilles. Comment l'expliques-tu? J'ai souvent entendu que c'était difficile, surtout des artistes qui écrivent en anglais et qui ont l'impression que leur texte en français sonne quétaine. Moi, j'ai tellement écouté de chansons francophones que même si ça demeure un défi d'écrire une bonne chanson, ça n'a jamais été ardu de m'épanouir dans l'écriture en français. Mon père écrivait des poèmes et des contes. Il nous donnait des dictées à mon frère et moi. Comme j'ai un esprit compétitif, je voulais être meilleur que lui. À l'école, les rédactions étaient mon dada. Quand j'écris, je le fais parce que j'ai quelque chose à dire sur un sujet qui me tient à cœur. J'écris par nécessité et ça me donne un flot naturel. Dans une de tes chansons, tu parles de tes envies de percer très jeune. Quel est ton rapport avec le fait de cogner aux portes du show business dans la trentaine? À l'école de la chanson, un prof d'écriture disait que les meilleures œuvres partaient de quelque chose qu'on dévoile de personnel, voire d'un truc qu'on n'oserait surtout pas dire. À l'époque, je restais flou par rapport à mon âge, parce que je peux paraître plus jeune. Je vais avoir 39 ans en juin. Quand le prof nous a dit ça, je savais que je voulais parler de ça, du fait que j'imaginais être connu à 25 ans, avec de l'argent et du fame. Finalement, une chance que ça ne m'est pas arrivé à cette époque-là. Je devais faire mon travail humain en coulisses. Le plus grand plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est que les choses sont moins à propos de moi. Je veux donner de la force aux gens et offrir une forme de représentation. Avant, quand je m'apprêtais à monter sur scène, je me demandais si les gens allaient m'aimer. J'étais plus dans une énergie de séduction. Maintenant, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi-même. Je veux davantage donner que recevoir. Dans tes paroles et dans ton identité visuelle, tu embrasses pleinement ta queerness. Pourquoi? Je ne m'étais jamais montré de manière sexuée. Étant une personne qui a passé une bonne partie de sa vie dans un milieu rural à vouloir cacher son homosexualité, ça me semblait normal de m'assumer en faisant un album. Je me suis réapproprié le surnom Jaco que mes intimidateurs utilisaient plus jeune pour me railler. Des chansons comme « Hétéro » et « Come to Daddy » me permettent en quelque sorte de réécrire mon passé. Dans le futur, je n'irai pas aussi fort dans la queerness et le côté sexué, mais c'était important avec le premier album de faire un pied de nez à mon passé et de m'actualiser comme humain vraiment bien avec lui-même. Pourquoi déménages-tu en France sous peu? J'ai toujours eu un œil sur la France. La scène musicale européenne résonne très fort avec moi. J'aime des artistes pop mainstream avec de la personnalité comme Eddie de Pretto, Angèle et Stromae. Récemment, j'ai gagné un concours qui m'a permis de faire la tournée Mégaphone là-bas en 2024. Ma rencontre avec le public m'a confirmé que je me reconnais dans cette scène électropop. Tu as aussi attiré l'attention du fameux Thierry Suc. Il a commencé à me suivre sur Instagram. J'ai tout de suite reconnu le nom de celui qui produit les concerts de Mylène Farmer. Quand j'ai vu son nom, j'ai provoqué ma chance pour le rencontrer. Il a décidé de produire une date pour moi à Paris en décembre 2024. Ça a hyper bien fonctionné et ça a mené à un engagement de sa boîte. Quelle est son implication dans ton nouvel album? Mon album était déjà très avancé avec mon équipe québécoise. Je le sors le 28 mars. Je fais un lancement au Petit Campus de Montréal le 4 avril. Quelques jours plus tard, je vais me rendre en France pour leur présenter de nouvelles maquettes pour le prochain album et discuter de la suite des choses. La France va devenir ma résidence principale. C'est un nouveau chapitre de vie et la concrétisation d'un rêve. C'était Jaco, le phénomène québécois à la conquête de la France. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 26 mars 2025 dans le magazine Fugue.
La TELUC a manœuvré pour que des étudiants obtiennent des millions en bourse en trop. Un texte de Marie-Michèle Sioui paru le 11 avril 2025 dans Le Devoir. Dans une manœuvre qui a coûté des dizaines de millions de dollars au gouvernement du Québec, la TELUC a fait passer des réfugiés syriens inscrits à des cours de langue pour des étudiants au baccalauréat afin qu'ils obtiennent des prêts et des bourses auxquels ils n'avaient pourtant pas droit. Dans la foulée de cette affaire, l'ex-directeur général de la TELUC, Martin Noël, a été suspendu en juillet 2018 par l'ex-ministre libéral Hélène David. M. Noël a ensuite été réhabilité en 2019 et dédommagé à hauteur de 260 000 $ par l'Université du Québec, le réseau dont fait partie la TELUC, en vertu d'une entente confidentielle. Le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-François Roberge, avait alors dit de cette histoire qu'elle avait été un peu gonflée sous le précédent gouvernement. M. Roberge n'a pas voulu revenir sur l'affaire dans le cadre de cet article. Au plus fort de cette saga, un syndicat de professeurs avait dénoncé en 2019 le fait que l'accès aux rapports d'enquête soit refusé aux médias. 7 ans plus tard, dans le cadre d'une série d'articles sur les pratiques de la TELUC, Le Devoir en a obtenu une copie. Une clientèle vulnérable. Daté de juin 2018, le rapport de l'équipe des enquêtes du ministère de l'Enseignement supérieur détaille le stratagème mis au point par la TELUC à compter de 2016. À cette époque, une entente entre en vigueur. Elle lie l'université et l'Institut Matki, une société par action créée 2 ans plus tôt et dont l'actionnariat est détenu par 2 compagnies à numéro. Matki a pour mission de recruter des étudiants, issus des communautés culturelles, afin qu'ils suivent des cours de langue offerts par la TELUC, pour la plupart à temps partiel. Matki doit aussi assurer le mentorat et l'encadrement des étudiants. L'Institut se présente alors comme une université, contrevenant par le fait même à la loi. La quasi-totalité des étudiants recrutés en vertu du partenariat était née hors du Canada. Environ la moitié d'entre eux étaient des réfugiés syriens, lit-on dans le rapport d'enquête. Pour les inciter à s'inscrire à la TELUC, Matki et l'université leur auraient fait miroiter la possibilité de profiter des programmes de prêts et bourses du gouvernement. Ils auraient ainsi utilisé l'aide financière aux études comme un moyen d'attraction pour cette clientèle immigrante vulnérable, lit-on dans le rapport. Les étudiants visés, vivant une situation financière précaire, seraient encouragés à demander l'aide financière aux études pour recevoir des bourses notamment, avance le document du ministère. De faux étudiants au baccalauréat. Pour les rendre admissibles aux prêts et bourses, la TELUC a déclaré au ministère de l'Éducation que ces étudiants étaient inscrits au baccalauréat. Les formations qu'ils suivaient comptaient pourtant de 9 à 30 crédits, alors qu'un baccalauréat équivaut à 90 à 120 crédits universitaires. Par cette déclaration, les étudiants deviennent donc admissibles à l'aide financière du ministère sur la base d'une information inexacte, lit-on dans le rapport. En clair, tous ces étudiants sont déclarés par la TELUC comme des étudiants inscrits au baccalauréat, alors qu'ils sont inscrits à des programmes courts qui ne sont pas tous admissibles à l'aide financière aux études. En fin de compte, presque tous les étudiants recrutés par Matki ont ainsi pu toucher des prêts et bourses, engendrant des dizaines de millions de dépenses à l'État québécois. Les versements en aide financière aux études destinés aux étudiants de la TELUC sont passés de 7,8 millions de dollars en 2010-2011 à 27,1 millions en 2016-2017. En bourse seulement, les paiements faits par le ministère ont bondi. De 4,5 millions en 2010-2011, ils se sont élevés à 19 millions 6 ans plus tard. Plus de la moitié de la valeur de ces bourses, soit près de 10 millions de dollars, a été octroyée aux étudiants TELUC Matki en 2016-2017. Cette année-là, 83 % des étudiants de Matki inscrits à la TELUC ont bénéficié de l'aide financière aux études, relève le rapport d'enquête. Le document souligne que cette pratique a pu plomber l'horizon pédagogique des étudiants ou les placer dans une situation financière précaire. Le service d'aide financière aux études craint que ces étudiants recevant une aide financière aux études pour ces programmes non qualifiants ne soient pas en mesure de faire face à leurs obligations financières envers le ministère. Ceci pourrait potentiellement les empêcher de s'offrir éventuellement une formation qualifiante dans le futur, puisque ce défaut de rembourser les empêcherait d'être à nouveau admissibles à l'aide financière aux études. Y est-il écrit? Vous écoutez, la TELUC a manœuvré pour que des étudiants obtiennent des millions en bourse en trop. Un texte de Marie-Michel Sioui paru le 11 avril 2025 dans Le Devoir. Payante pour la TELUC et Matki. La collaboration a aussi été fructueuse pour la TELUC. Elle a fait exploser sa clientèle étudiante. En 2018, 2 ans après l'entrée en vigueur de l'entente, les étudiants recrutés par Matki comptaient, à eux seuls, pour 29% des inscriptions à des cours de la TELUC, voit-on dans le rapport. Les droits de scolarité exigés aux étudiants de Matki devaient être les mêmes que ceux payés par les autres étudiants de la TELUC. Contrairement aux autres, par contre, les étudiants de Matki n'avaient pas la possibilité de reporter la date de fin de leur cours, note le rapport. S'ils ne finissaient pas leurs études dans le délai de 15 semaines qui leur était alloué, ils devaient donc se réinscrire à la session suivante. Cette pratique a pour effet de générer des inscriptions supplémentaires tout en posant potentiellement un problème d'équité envers les autres étudiants de la TELUC, lit-on dans le document. Pour justifier sa collaboration avec Matki, la TELUC disait espérer que les étudiants recrutés pour des cours de langue poursuivent ensuite leurs études dans un autre de ses programmes. Son souhait ne s'est cependant jamais réalisé. Seulement 22 des 5500 étudiants recrutés grâce à ce partenariat, 0,004%, ont ensuite bel et bien étudié dans un autre programme de la TELUC. La collaboration a, par ailleurs, permis à Matki de toucher 9,5 millions en redevances sur 4 ans, de 2014 à 2018. Le CA jamais avisé. Le rapport d'enquête note au passage que l'entente en question n'a jamais été soumise au conseil d'administration de la TELUC, et ce, malgré les montants impliqués. Il souligne aussi que le contrat aurait dû être octroyé au terme d'un appel d'offres public et que Matki aurait dû détenir une autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour l'obtenir, ce qui n'était pas le cas. Le Devoir a sollicité Martin Noël pour ce texte. Le professeur qui travaille toujours pour la TELUC a dit être dans l'impossibilité de répondre à nos questions en raison de l'entente de confidentialité qu'il a signée en mai 2019. L'Université du Québec, qui a dédommagé M. Noël à hauteur de 260 000 $, n'a pas non plus souhaité faire de commentaires. Quant à la TELUC, elle a rappelé qu'elle n'a plus de lien d'affaires avec Matki depuis l'automne 2018. Étant donné l'ancienneté du dossier, nous ne donnerons pas suite à d'autres demandes d'informations à ce sujet, a écrit la directrice de son service des communications. De l'argent pour des cours en Alberta. Le document d'enquête du ministère de l'Enseignement supérieur souligne également que certains étudiants recrutés par Matki pour le compte de la TELUC étaient inscrits à un certificat interuniversitaire en langue anglaise offert conjointement et à distance par l'Université d'Athabasca, basée en Alberta. Or, le Québec n'octroie pas de prêts et bourses pour des programmes dispensés par des établissements hors Québec, rappellent les enquêteurs. Il est aussi indiqué que des étudiants qui suivent des cours de langue seconde peuvent déjà recevoir un soutien financier du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, et que celui-ci les rend inadmissibles aux prêts et bourses du ministère de l'Éducation. En résumé, l'aide financière aux études est versée de façon non conforme à la majorité des étudiants inscrits par Matki, résume le rapport. Dans la foulée, l'équipe des enquêtes avait noté que certains anciens employés de Matki ont indiqué aux vérificateurs qu'ils offraient des services d'enseignement et qu'ils avaient pour consigne de faire passer leurs étudiants lors des évaluations, quitte à ignorer les signes de plagiat. L'équipe du ministère lui a donc demandé de prendre position afin d'évaluer s'il est acceptable que la TELUC confie une partie de son enseignement à une entreprise privée, auquel cas des modifications à la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire devaient être envisagées. La TELUC n'a pas voulu dire au Devoir si cela a été fait. Le Devoir a aussi demandé vendredi dernier au ministère s'il avait bel et bien pris position à ce sujet. 5 jours plus tard, le ministère a envoyé cette demande à son service d'accès à l'information, ce qui aura pour effet de retarder une éventuelle réponse d'au moins 20 jours. Pour rappel, le Devoir a aussi révélé en octobre dernier que la TELUC a délégué, entre 2014 et 2017, des activités de recherche dans les écoles à l'entreprise GK de Normand-Saint-Georges, lequel se présentait comme un professionnel de recherche de l'université. Le gouvernement a renvoyé une partie du dossier TELUC à l'Autorité des marchés publics pour que l'organisme de surveillance enquête sur les méthodes de l'université. Matki se faisait passer pour une université. Le rapport d'enquête du ministère de l'Enseignement supérieur tape sur les doigts de Matki Montréal, qui affirmait, à tort, offrir des programmes universitaires et des partenariats universitaires alors qu'il n'était pas reconnu comme un établissement universitaire québécois. Pour cela, l'Institut a été visé par une injonction de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec en 2018. L'affaire s'est réglée à la signature de la convention collective. Matki a aussi reçu une mise en demeure du ministère de l'Enseignement supérieur le 26 avril 2018. Dans la foulée, Matki a modifié ses communications publiques, sur ses réseaux sociaux notamment. La présidente de Matki de l'époque, Saloua Zreda, n'a pas souhaité répondre aux questions du Devoir parce qu'elle n'est plus impliquée au sein de l'entreprise depuis des années. Le rapport du ministère détaille par ailleurs la structure complexe de Matki Montréal, une société par action créée en 2014. Il note aussi que son actionnariat est détenu par 2 compagnies à numéros, constituées quelques jours avant Matki. C'était « La TELUC a manœuvré pour que des étudiants obtiennent des millions en bourse en trop », un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 11 avril 2025 dans Le Devoir.